ces petits fascicules que vous avez édités.
Ah, les menus bonbons sur la bruyère, oui.
Je ne sais pas si beaucoup le connaissent, mais moi, ça m'a beaucoup aidé, ça.
C'est un article, n'est-ce pas, qui a paru dans la revue Carmel. On a fait quelques petits livrets, des choses comme ça.
Il y en a deux sur les demeures.
Oui.
Et il y a ça, c'est sur l'oraison.
Menu propos chez la prieure.
Je voulais vous demander si vous les aviez encore.
Ah oui, je pense qu'on en a encore, oui. Il suffit de demander avant.
Mais on m'a
pas répondu. C'est épuisé ?
Je pense, oui. Ou alors sur Internet, je pense. Vous avez publié...
Ah, ça doit pouvoir se trouver, oui.
Sur Internet, dans le site du Brousset, j'ai vu qu'il y avait quelque chose sur les documents que vous avez écrits.
Ah ben voilà, oui.
Donc on peut peut-être les télécharger autrement.
C'est possible,
j'ai demandé,
oui.
Parce que je voulais savoir si vous en aviez écrit d'autres, parce que moi ça fait 20 ans que j'ai ça.
J'avoue que je ne saurais pas vous le dire, n'est-ce pas ?
Oui.
Il y a un petit travail, parce que, primo, je suis moi-même pas très familier d'Internet. Je tapais à la machine à écrire et actuellement, n'est-ce pas, mon ordinateur me sert à peu près uniquement pour ça. Et d'autre part, je crois qu'il y a un petit livre que je ne pense pas, je ne sais pas si j'ai mis là. Si, celui-là, Jalon pour un itinéraire spirituel, qui reprend alors carrément toute la... un peu tout ce que je vous ai dit là, c'est ça. Mais celui-là, il est édité, il m'a été demandé par les Béatitudes, et il est édité aux Béatitudes. Et nous ne l'avons pas ici en vente en bibliothèque. Et on l'a aux Béatitudes. Vous pouvez là, je le laisse là encore, le regarder, le consulter, n'est-ce pas, avant de partir aussi bien. Oui. Là, vous retrouverez à peu près tout ce que je vous ai dit ici, dans ce petit livre. Alors, autrement, sur Sainte-Thérèse, ben, vous avez vu à la bibliothèque, là-bas, à la porterie, il y a un certain nombre d'ouvrages. Hein. Il y a aussi, si vous le voulez, vous connaissez la collection peut-être, Prier 15 jours avec un tel ou une telle. Ben, il y a aussi Prier 15 jours avec une certaine Thérèse d'Avila. Hein. Bon, vous retrouverez aussi un peu ce qui a pu être dit ici. Et même à côté, pour parler de bibliographie, vous avez alors un livre un peu plus gros. Je regrette pour ma part que les éditions du Carmel ont voulu soigner la présentation avec des petites, on appelle ça du cul de lampe, je crois, un peu partout en marche, enfin, etc. Bon, ce qui le rend un peu moins accessible financièrement. Mais Thérèse d'Avila, qui es-tu ? Bon, là. Vous trouverez à peu près tout ce qu'il faut sur Thérèse d'Avila, si vous voulez. Voilà donc, bon. Autre question ou autre...
Que différencier entre le Carmel réformé et le Carmel où elle est tant elle était prieure.
Alors, le Carmel réformé, là, a commencé par être déjà, peu après la mort de Sainte Thérèse, est devenu une province autonome dans l'ordre du Carmel. Et quelques années après... le provincial a pu obtenir du Saint-Siège que la séparation soit faite entre eux, complètement entre les deux ordres. Désormais, juridiquement, ils sont indépendants l'un de l'autre. Mais ils existent tous les deux encore. Hein ? Oui. Et il y a aussi bien du côté masculin que du côté féminin. Ça. Alors, les carmes, si vous verrez peut-être quelquefois dans certaines publications, vous avez des pères carmes qui signent O. Carmes. Oui. Ça, ce sont les carmes non réformés, si vous voulez. Hein. Et les carmes réformés, donc les carmes thérésiens, ça, eh bien, ils signent OCD, comme les dominicains signent OP, les jésuites SJ, n'est-ce pas, hein. Eh bien, OCD, ça veut dire, n'est-ce pas,
Ordre Carme des Chaussées.
Quelle est la différence? Et donc actuellement, pardon, oui.
Non, c'est moi. Quelle est la différence, grosso modo, entre les deux maintenant? Il n'y a plus de différence.
Vous savez, quand une famille existe, elle a des pratiques un peu différentes, mais c'est à peu près tout. Au point que ceci, dans le monde actuellement, les Carmes Deschaux sont à peu près 4000 et les Carmélites Deschaussées 12000 à peu près. Hein ? Les Carmes non réformés sont à peu près 2000 religieux encore et seulement désormais 400 ou 500 religieuses. Sont très peu nombreuses dans l'ordre non réformé.
Mais à l'époque, il y avait beaucoup de différences.
Oui, en ce sens que Sainte Thérèse, donc la réforme, elle a voulu revenir à une pratique beaucoup plus austère, ça, de la vie carmélitaine. Et d'ailleurs, elle-même, si vous voulez, dans le couvent de l'incarnation non réformé, eh bien, il y avait différents. Les sœurs qui avaient, dont les familles, etc., avaient des moyens plus importants et qui apportaient une dot plus importante, pouvaient avoir un petit appartement. C'était le cas de Sainte Thérèse. Elle avait son oratoire et sa chambre et même une petite cuisine en bas. Voyez. Tandis que les sœurs qui n'avaient rien de particulier couchaient en dortoir sous les tombes, sous les combles. Et donc, c'est d'autre part, les sœurs pouvaient sortir de la communauté très facilement, voilà, pour aller en famille. Et au couvent de l'incarnation, qui à l'époque n'était pas très riche, qui était une espèce de phalanstère de 150 religieuses, non, hein, il y avait là-dedans un certain nombre. Le couvent ne disposait pas lui-même de grandes ressources. Alors, de temps en temps, une sœur partait en famille ou en villégiature ou quelque chose, pas, c'était une bouche de moins à nourrir, vous voyez, faut dire, pour parler crûment comme ça. Alors c'est tout ça qui a été réformé, si vous voulez. Mais à l'heure actuelle, bon, en France, alors disons, en France, à la Révolution, tout ce qui était d'ordre masculin, carme réformé ou carme non réformé, ça a été balayé. Les carmélites seuls sont restés, ça. Et du reste, le père dont vous voyez le portrait là-bas, le père espagnol, là, c'est le père fondateur du Broussais. Il faut peut-être le savoir, n'est-ce pas ? C'est un père espagnol qui, chassé dans les années 1838-40, a atterri, chassé par la guerre civile, a atterri à Bordeaux, bon, dénué de tout à peu près, il avait l'intention de partir pour le Mexique, il est allé frapper à la porte de ses sœurs carmélites. Et il y avait là une maîtresse femme qui était prieure et qui lui a dit « Non, 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 vous n'allez pas partir au Mexique, on a besoin de vous ici, nous les sœurs, nous avons besoin. Alors, vous avez à 38 km d'ici, dans un petit hameau appelé le Broussais, hein, eh bien, un prêtre diocésain qui dispose d'une maison dont il voudrait faire un couvent. La maison, nous y sommes. Hein. Ici, on est la partie neuve. Moi, j'ai connu ceci qui était une grange encore, mais la partie de l'autre côté, si vous voulez, ben, c'est la maison telle qu'a trouvé ce père, n'est-ce pas ? Oui. Et donc, le couvent est parti d'ici. Hein. Et d'ici, il a très vite essaimé, d'abord, là, dans le bassin aquitain, hein, puis s'est remonté, hein, vers la vallée du Rhône, puis c'est remonté jusque dans le nord, puis ça a fini dans l'ouest. Pas, il y a eu toute une série de fondations, puis il y a eu des personnes aussi de fortes personnalités, dont l'une d'entre elles était un musicien, certains d'entre vous savent tout ça, hein, mais pour d'autres ça peut les intéresser, c'était un musicien, ami de Liszt et de également de oh, tant pis, c'est une personne bien connue, ça reviendra. Et lui-même a été invité un jour a été demandé par un de ses collègues pour aller animer une bénédiction du Saint-Sacrement et jouer de la musique à ce moment-là. Il était juif. Et ça l'a retourné. Il s'appelait Hermann Cohen, juif de nationalité allemande. Il est arrivé. il a été conventuel dans ce couvent, et comme il avait beaucoup de talent, il a enseigné, prêché beaucoup en Espagne, en Angleterre plutôt, là, oui. Mais il est, quand la guerre de 70 a éclaté, nationalité allemande, il a dû partir dans son pays. Et il est mort en 1871 à Berlin en soignant les prisonniers français. Et du typhus, il est mort du typhus qu'il a pris comme ça. Et le père Hermann Cohen, Augustin du Saint-Sacrement, eh bien vous pouvez aller vénérer tout à l'heure ses restes, qui sont au fond de la chapelle, vous avez remarqué. Et dont le procès de canonisation est en route, enfin il a été commencé. Voilà un petit peu les choses qu'il faut savoir quand même. Savoir que le Brousset, donc, est le point de départ du renouveau des carmes français, ça, des carmes Deschaux, thérésiens, en France. Alors, l'autre ordre, le grand, ce qu'on appelle les grands ordres, c'est-à-dire eux s'appellent les carmes de la primitive observance, eh bien, ils ont été balayés aussi à la Révolution. Et en France, on n'a plus entendu parler d'eux jusqu'il y a maintenant une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, il y en a deux qui sont arrivés à Bourges. Bon. Et maintenant, ils ont fondé à Nantes. Et ils ont un couvent, un très joli couvent d'ailleurs, que j'ai visité, un petit couvent. Et donc, la branche initiale, là, eh bien... et a repris aussi en France actuellement. Et chose assez qui vaut la peine d'être notée aussi, du côté de nous, les carmes Deschaux, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'appels à une réunification, si vous voulez. Nous sommes les possédants maintenant. C'est-à-dire en meilleure posture, n'est-ce pas, que les autres qui sont beaucoup moins nombreux que nous. Mais du côté des carmes anciens, ils ne seraient pas fâchés du tout que l'on puisse faire de nouveau un seul ordre. Je ne sais pas si ça viendra. Enfin, de ce côté-là, la question est posée, beaucoup plus d'ailleurs que de notre côté. Voilà un certain nombre de détails, si vous voulez, qu'il est bon de savoir ça. Et concernant le Brousset, donc, qui est vraiment la maison mère actuellement, c'est plus la maison provinciale, c'est Montpellier, n'est-ce pas ? Mais le Brousset est la maison mère d'où est reparti le Carmel. Le Carmel masculin. Oui ?
Il y a dans Bordeaux une église des Carmes qui est aujourd'hui une maison de retraite.
Pardon, dans Bordeaux ?
Dans Bordeaux, il y a une église qui s'appelle des Carmes.
Oui.
Une maison de retraite,
oui.
Mais qui paraît pas très très ancienne, je pense, au 19e siècle.
Oui, je pense, pas plus que ça, oui. Et voyons, je pense que nous en avons eu la desserte jusqu'à la guerre de 14 ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, bon, nous avons eu la desserte, mais nous n'avons jamais eu nous-mêmes de couvent à Bordeaux. Par contre, nos sœurs carmélites, elles ont habité d'abord. Je me demande d'ailleurs si cette église des Carmes n'était pas la résidence, je ne saurais pas vous dire, des carmélites avant qu'elles n'aillent à Talence. C'est pas impossible ça. Oui. Là, je ne sais pas.
Parce que c'est une école dans l'ancien cloître.
Parce que finalement, nous, les Carmes, nous avons été fondés, nous, les Carmes, au moins les Carmes Deschaux, nous avons été fondés. Sainte Thérèse n'a pas voulu fonder une branche masculine, sinon simplement pour être au service de ses carmélites. Je dis quelquefois, nous sommes les bâtards de Sainte Thérèse parce qu'elle n'a jamais voulu, elle n'a jamais voulu notre existence pour nous-mêmes, mais pour ses sœurs. Il peut être au service des carmélites, confession, formation, etc.
Les carmélites parisiennes de la Révolution, elles ont été décapitées. Vous dites que les hommes ont été chassés, oui, mais les femmes ont été décapitées.
Toutes. Celle de Compiègne.
Le dialogue des carmélites de Vernanos, là, qui relate ça.
Oh, excusez-moi, mais j'entends très mal le régissement, oui.
Non, je demandais ce qui était, pourquoi ils avaient chassé les hommes à la Révolution et pas les femmes. Vous avez dit ça.
Oh, parce qu'à l'époque, vous voyez, on était très machos encore. Hein, oui, c'est les hommes qui font, qui mènent l'affaire, c'est ceux qui sont dangereux. Les femmes, elles sont bouclées dans leur couvent, ça n'a pas d'importance.
Mais ils ont décapité.
Ah, il y en a quelques-unes, oui, quand même, oui, oui. Mais ça, alors, ça varie localement, si vous voulez. Je ne sais pas si les carmélites de Bordeaux ont été tellement inquiétés, si vous voulez. Alors que les carmélites de Compiègne, oui, ben, elles ont toutes passé, hein, oui, oui, oui. Et ça, ça dépend de quelques gouvernants diocèses particuliers. Oui. Ben oui. Non, je crois que ça tient essentiellement à ce que ils ont voulu s'attaquer, les révolutionnaires, donc aux patrons. Ceux qui étaient les patrons, quoi. Hein. Bon, les capitaines, qui les bonnes chères après, ça n'avait pas beaucoup d'importance pour eux. Oui.
Est-ce que l'on attribue des miracles à Sainte Thérèse d'Avila?
Oui, ah oui, oui. Même y compris pendant sa vie. Parce que il y a au moins ceci. Je crois que c'est peut-être quelque chose d'autre, mais à un moment donné, elle se trouvait dans une famille amie, et il y avait là un petit garçon qui est tombé, qui s'est cassé la tête et qui était bon. T'es mort. Et Sainte Thérèse l'a pris dans ses bras, elle lui a dit non, non, elle a fait comme le Seigneur pour la fille de Jaïr, n'est-ce pas, hein, elle a pris, elle a dorloté, et puis, bon, ben, l'enfant, on avait constaté sa mort, mais bon, l'enfant est revenu, n'est-ce pas, oui, tout simplement. Oui. C'est une chose qu'on note, n'est-ce pas, dans la vie de Sainte Thérèse, oui. Et elle n'a pas voulu faire de bruit de tout ça, et elle a dû simplement dire, oui, vous faire. Il était tombé en syncope et puis on l'a. Mais effectivement, les témoins ont dit qu'il était bien mort. Ça. Oui. D'autres questions éventuellement? Ou d'autres.
Est-ce que Thérèse a écrit sur la famille elle-même ou sur le couple?
Sur le. Non. Elle a écrit les constitutions, ça. Ça, de nouvelle constitution, la règle même du Carmel, hein, eh bien, comme beaucoup de règles monastiques, c'est quelque chose d'assez court. Hein. Et alors après viennent les constitutions qui sont, si vous voulez, la manière d'appliquer tout cela. Hein. Bon. La règle du Carmel, c'est la même pour tout le Carmel. Elle a été donnée. Parce que ça aussi, si vous voulez, l'origine des carmes, hein, c'est au temps des croisades en Palestine. Il y avait quelques croisés de la deuxième croisade, hein, qui sont restés en Palestine une fois que les troupes étaient reparties et qui se sont installés, quelques-uns d'entre eux, comme dans de petites cavernes sur le mont Carmel. Chacun avait son petit, sa cellule, si vous voulez, n'est-ce pas? Et ils étaient là, côte à côte, n'est-ce pas? Et ils ont demandé une règle de vie au patriarche de Jérusalem, lequel, Jérusalem était de nouveau entre les mains des musulmans, n'est-ce pas, hein, il résidait à Saint-Jean d'Acre. Et donc, il leur a donné la règle, et ils sont restés sur le mont Carmel jusque dans les années 1200 et quelques, où finalement, tous les croisés, ou tout le royaume latin de Jérusalem a disparu, fin du XIIe siècle, ça, 1180. Oui. Et donc, ils ont été rejetés à la mer vers les années 1200, et ils sont arrivés en France, en Europe. D'abord en Angleterre, et puis à Marseille, après. Et arrivés là, comme ça, bon, ils sont arrivés à un moment de grandes fondations religieuses de tous ordres en Europe. Là, les dominicains, les franciscains, les servites de Marie, un certain nombre, encore beaucoup d'autres comme ça. Le pape en avait assez de voir toutes sortes de formes de vie religieuse. Il a imposé aux carmes qui venaient là d'adopter une règle, hein, une forme de vie religieuse. Ils avaient leurs règles qui avaient été données là-bas en Palestine, mais leur manière de vivre, et bien on leur a dit, ben, ou bien vous serez complètement cloîtrés, ou bien vous serez un ordre mendiant. Les ordres mendiants, vous voyez, c'était les franciscains, les dominicains, ceux qui finalement gagnaient leur vie par leur ministère, n'est-ce pas, hein, et non pas comme les bénédictins, par les terres qu'ils cultivaient, qu'ils faisaient cultiver, ou même les chartreux ou les trappistes. Et donc, on a eu cette règle, cette forme de vie-là, ça, qui est une vie donc, par laquelle, eh bien, c'est ce qu'on appelle les ordres mendiants, hein, c'est-à-dire ceux qui vivent en communauté, qui pratiquent l'office choral, donc l'office en commun au cœur, n'est-ce pas, bon, et qui vivent de leur monastère, de leur ministère. Ça. Les jésuites sont arrivés après, et c'est très différent. Saint Ignace, pour fonder les jésuites, a dû se battre, et durement, pour que d'une part, les jésuites n'aient pas l'office en commun, et qu'ils puissent le réciter tout seuls, qu'ils n'aient pas d'habit religieux particulier. Et parce que, bon, ben, ils adoptaient tout simplement la manière dont les prêtres s'habillaient à ce moment-là. Deux choses qu'ils ont eu du mal à avoir, n'est-ce pas ? Et parce que pour eux, la règle, c'est que c'est le ministère lui-même qui donne tous les moyens d'une vie totalement donnée au Seigneur. Alors que chez nous, les mendiants, il y a la communauté. Une communauté jésuite, c'est très extrêmement libre, hein, mais la communauté avec l'office en commun. Ça. Il peut y avoir un ministère, bon, même, c'est le cas des mendiants, mais il reste cette forte vie communautaire. Alors voilà, ça évolue comme ça. Pas. Voilà, je crois que... Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... Vous parlez d'extase comme une faiblesse. Alors moi, je comprends... Pas comme un choc. L'extase, pour moi, c'est plutôt paradoxal, l'extase comme une faiblesse. Et en même temps, je vous dis que...
Une extase?
Oui, vous présentez l'extase de Thérèse, à un moment donné, vous dites que c'est
oui,
une faiblesse.
Oui, oui, oui. Alors je crois que c'est une grâce très importante, n'est-ce pas? Mais une grâce telle, si vous voulez, que... L'être humain qui en est bénéficiaire, à un moment donné, eh bien, le Seigneur l'empoigne tellement que toutes ses facultés, si vous voulez, sont empoignées par le Seigneur, et donc, à ce moment-là, ne fonctionne plus. Or, il faut bien prendre conscience de ça, vous l'avez appris probablement si vous avez fait un peu de philo, n'est-ce pas ? Nous n'avons conscience de nous qu'à partir des actes que nous posons. Hein, pas forcément les actes extérieurs, mais aussi ça, tout ce que nous vivons dans notre psychisme. Ça, oui. Et quand tout ça est suspendu, vous n'êtes plus conscient de vous-même. Oui. Et c'est ça, hein, l'état extatique. Quand c'est Dieu qui l'opère. Et alors, il peut y avoir des contrefaçons. Des formes d'hypnotisme, tout ce qu'on voudra. Oui.
Est-ce que l'on peut l'entendre comme une purification?
En un sens, oui, je crois, oui. Oui. Je ne saurais pas vous dire exactement. Je crois que c'est surtout signe d'un certain charisme, si vous voulez. N'est-ce pas ? Parce que il est certain... Et là, je vous rejoins, que la personne qui bénéficie d'une extase, eh bien, bénéficie de beaucoup de choses qui vont la changer intérieurement. Mais pendant l'extase elle-même, Après, il est très possible, et même Sainte Thérèse le montre, n'est-ce pas, qu'elle reprenne conscience de ce qui lui a été donné à ce moment-là. Mais sur le moment, ça ne fonctionne plus. Oui. J'avoue que je ne sais pas exactement, je ne saurais pas vous dire exactement ce qui se passe, c'est ça, dans ce cas-là. Ce que je sais, c'est que dans l'extase, encore une fois, est un signe d'imperfection par rapport à une communication divine, quoi. L'être humain n'est pas encore en état de supporter, sans perturbation, ce que le Seigneur lui envoie. Parce que si à ce moment-là, la personne pouvait jouir de ce que Dieu lui donne, ça serait paradis. Il y a une chose, si vous voulez, j'ai fait allusion, mais c'est au chapitre 33 du livre de l'Exode, cette scène où Moïse demande au Seigneur, fais-moi voir ta face. Il lui a donné déjà tellement de choses à faire. Et le Seigneur lui dit, ah non, il ne verra pas ma face, parce que l'homme ne peut pas voir ma face sans mourir. Et donc, il ne peut pas non plus, vous voyez, recevoir un contact déjà tellement brûlant de la part de Dieu sans être inhibé, si vous voulez, tout à temps. Et alors, le Seigneur dit à Moïse, mais tu es mon ami et je vais faire quelque chose pour toi. Je te mets dans le creux du rocher et je vais passer. Et pendant que je passe, je vais mettre ma main devant le creux du rocher. Mais quand j'aurai passé, je lèverai la main et tu pourras me voir de dos. Oui. C'est une phase, une façon imagée, évidemment, de dire que finalement, Moïse est invité à reconnaître la trace du passage. Le Seigneur a passé, bon, ça, oui. Il ne l'a pas vu à ce moment-là. Il le voit, si vous voulez, oui, de dos simplement. C'est au chapitre 33 de l'Exode.
Oui, on l'a noté.
Est-ce qu'il existe, ou est-ce que vous avez une schématisation, une façon d'articuler les sept demeures de Sainte Thérèse? Une façon un peu de les ordonnancer les unes par rapport aux autres. Est-ce que ça a été fait, ça?
Alors, vous voyez, oui, là, je crois que vous posez une bonne question, parce que le livre des demeures de Sainte Thérèse, c'est finalement le récit exprimé de façon un peu plus théologique, de ce qu'elle a vécu elle-même, son cheminement. Et ça ne veut pas dire du tout que le cheminement spirituel d'une autre personne, de vous comme de moi, ni des saints, excusez-moi, si je ne vous mets pas tout de suite au nombre des saints, mais eh bien, ce cheminement peut être très différent. Et c'est ce que je souhaitais vous le dire, n'est-ce pas, c'est que chacune des demeures, finalement, est utilisable pour nous en ce sens qu'elle fournit une des dimensions de la vie spirituelle. C'est comme, si vous voulez, si vous aviez un parcours à faire, à parcourir, mettons, 7 ou 8 points, mais vous n'êtes pas obligé de les parcourir tous dans le même sens. Comprenez-vous? Et donc, il se peut très bien que vous connaissiez une période de paix, de tranquillité, et en même temps d'union profonde avec le Seigneur, et ce seront les septièmes demeures qui vont vous éclairer. Mais ça ne veut pas dire du tout que vous êtes dans les septièmes demeures. Et d'autre part, vous pouvez avoir aussi, à la fin d'une vie où vraiment vous êtes tout entier donné au Seigneur, connaître la bagarre qui est décrite dans les deuxièmes demeures. Et du reste, Sainte Thérèse a dit un jour, qu'elle était retombée dans le deuxième demeure elle-même, ça, à un moment donné. Vous voyez ? Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, n'est-ce pas, que sur le petit livre que j'ai écrit là, qu'on m'a demandé, eh bien, j'ai parlé de jalons pour une vie spirituelle, n'est-ce pas, et non pas d'étape d'une vie spirituelle. La nuance existe, n'est-ce pas? Quand on parle des étapes, on s'est tenté de penser que l'une vient d'après l'autre, dans l'ordre prévu. Alors qu'il s'agit de jalons, plutôt que pour nous, dans tout ça. Alors que ce sont effectivement les étapes de la vie terrestre, de la vie spirituelle de Thérèse elle-même. Je crois que j'ai essayé de répondre au titre qu'il y avait dans le programme, ça, les étapes, oui. Ces étapes, eh bien, peuvent être pour nous des jalons, précisément. Écoutez.
Père Jean, et le phénomène de l'extase, enfin ce genre de phénomène, est-ce que ça arrive en psychiatrie? Enfin, pour des malades, je veux dire.
Je crois qu'il arrive des choses qui ressemblent, oui. Et qui ressemblent, comment les distinguer, si vous voulez, hein? Je crois que la personne qui est, qui connaît des extases, continue en dehors de là
à faire un genre de phénomène comme ça.
Vous voulez dire la transe?
Mais je crois que...
Plus que la transe, parce que c'est une transe.
Ce qui donne le critère, ce qui permet de distinguer l'un de l'autre, c'est le comportement qu'on a dans la vie courante. Une personne vit dans la vie courante tout normalement. C'est en cela que je vous disais, je vous dirais que c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, mais les théologiens pensent que la Vierge Marie n'a jamais eu d'extase. Alors, j'étais la femme du charpentier, quoi, là, bon, ben voilà, quoi. Hein. Et pourtant, jamais, jamais personne dans l'humanité n'aura cette union avec le Seigneur, n'est-ce pas? Oui?
J'ose une question. Est-ce que ce qui est... qui est mis sous le terme « repos dans l'esprit ».
Le repos dans le...
Dans l'esprit.
Oui, oui, oui.
Qui est vécu peut-être plus dans les communautés charismatiques.
Oui, 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 oui.
Bon, c'est pas des extases.
Non, mais bon...
Est-ce que ça peut...
C'est vrai, je crois qu'il y a des moments aussi, ça tient à la psychologie, etc., où un certain nombre de phénomènes religieux qui pendant tout un temps n'ont pas apparu, réapparaissent, oui, bon, et apparaissent aussi, vous voyez, dans un climat, effectivement, il peut y avoir un climat affectif et spirituel qui est favorable à ça, quoi. Hein. Je crois que c'est le cas actuellement des groupes charismatiques. Hein. Il se passe là-dedans des choses qu'on ne voyait pas autrefois. C'est là qu'il faut dire. C'est pas ça la sainteté. Et alors, si ça produit certains fruits, on reconnaît l'arbre à ses fruits, a dit l'Évangile. Et c'est cela qui permet de découvrir l'authenticité. Tout simplement. Si vous avez quelqu'un qui a des extases et qui en dehors de là fait les 400 coups, vous savez, ben vous pouvez être tranquille que c'est pas authentique quoi, comme extase, c'est ça.
En même temps, il y a des vies de sainteté qu'on ne découvre que longtemps après la mort de la personne parce que la vie de sainteté était très cachée.
Ah oui, 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 oui.
C'est un autre problème, ça. C'est...
Oui. Vous savez, je crois que les saints. Et les saints, il n'y a pas que les saints canonisés. Hein. Eh bien, un certain nombre des grâces qu'ils ont reçues sont peut-être valables pour longtemps après. Ça, oui, oui, oui. Alors, je crois que c'est... là. Et de même, n'est-ce pas, si vous voulez, que dans la vie des saints qui ont vécu donc des choses quelquefois qui sortent de l'ordinaire, je serais tenté de dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et que chacun d'entre nous peut avoir son petit panthéon particulier, vous voyez, une demi-douzaine ou une douzaine de saints qui les inspire plus spécialement. J'ai connu des frères ou des sœurs qui m'ont parlé de leur petit panthéon. C'est pas moi qui ai inventé l'expression. Mais j'ai reconnu à ce moment-là que moi aussi, j'en avais un, de petit panthéon. Tout simplement, et qu'il y a des saints avec qui je suis plus ou plus familier, oui. Oui. Et je vous dirais que pour ce qui est de Thérèse d'Avila, eh bien, en 1950, quand apparut le livre de Marcel Auclert, moi j'ignorais tout de Thérèse d'Avila, à peu près, c'était un nom pour moi. Et ce livre m'a beaucoup intéressé à l'époque. C'est revenu longtemps après, si vous voulez. Mais, et alors, quand je suis arrivé au Carmel, au bout de quelques années, j'ai déjà une assez longue expérience de vie sacerdotale. Eh bien, on m'a demandé très vite de m'occuper des étudiants, et d'autre part aussi, une congrégation, la congrégation des sœurs de la Pommeraye, il y en a deux ou trois ici, eh bien, m'a demandé à ce moment-là si je pouvais moi-même former à l'étude de Sainte Thérèse une dizaine de religieuses de cette congrégation qui pourraient ensuite arroser toute la congrégation. Les sœurs étaient 800 et quelques à ce moment-là. Eh bien, bon. Alors nous avons travaillé 18 mois ensemble à raison de deux week-ends par trimestre. On a étudié tous les livres de notre mieux. Et puis j'ai même supervisé après le travail qu'ont fait les sœurs auprès de toute la congrégation. Si bien que moi-même, ça m'a permis. On ne connaît jamais aussi bien une question que quand on a mission de l'enseigner. Et du coup aussi, le provincial m'a demandé, ce que j'ai fait pendant 15 ou 18 ans, de former, d'initier nos jeunes, novices et postulants à Sainte-Thérèse d'Avila. Non, j'ai eu l'occasion de la fréquenter beaucoup. Voilà. Et avec joie, je dois dire, n'est-ce pas? Écoutez. Alors, on ne va peut-être pas prolonger, d'autant plus que certains d'entre vous souhaiteraient vraiment partir assez tôt. Eh bien, donc, merci encore.
Merci à tous.
Merci.